Dans la deuxième phase de cette conférence de presse, qui sera celle des questions et réponses, je voudrais bien vous demander de mettre vos téléphones sous mode silencieux ou alors de les éteindre. Et pour ceux ou celles qui voudraient prendre la parole, levez la main, présentez-vous ainsi que l'organe que vous représentez. Nous commençons tout de suite par Kinshasa. Deux questions à Kinshasa, une à droite, une à gauche et de préférence une femme pour ouvrir les débats. Oui, à vous.
Merci, M. Bass. Kieré Maï de l'Agence congolaise de presse. Tout de suite, je voudrais poser une question à Mme Jenny. Vous savez que le problème de recensement des populations se pose dans notre pays. Qu'est-ce qui vous a empêché à faire ce recensement? Le recensement depuis 30 ans, vous en avez parlé, alors que c'est une urgence politique et une urgence, comment vous avez dit, stratégique. Qu'est-ce qui vous a empêché? Alors que nous avons maintenant des sérieux problèmes, notamment concernant les élections.
Oui, madame, à vous.
Merci beaucoup. Merci pour cette question. Merci, chers collègues. Je pense qu'il faut faire la différence entre le recensement administratif à but électoral et le recensement général de la population et de l'habitat. L'un est une activité scientifique, anonyme, confidentielle sur certains aspects, qui permet de savoir là où se trouvent les populations, là où, avec des indicateurs précis qu'on doit mesurer pour planifier le développement économique et social. Et cela commence par les enfants, j'allais dire de 0 à 1, jusqu'à l'âge le plus avancé qui soit, contrairement au recensement administratif et politique qui, lui, commence à un âge plus avancé en général. Selon les pays, ça fait 8 ans ou 12 ans, c'est vraiment à but électoral. Le recensement en RDC coûte environ 1,50$ par personne. Vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec les budgets des élections, c'est un autre budget totalement qu'il faut mobiliser. Et la politique des Nations Unies par rapport au recensement, c'est qu'au moins 60% des ressources doivent être venues des ressources nationales. C'est une question d'appropriation nationale, c'est une question de souveraineté. Nous, en tant que Fonds des Nations Unies, nous sommes mandatés par les agences pour appuyer cela au niveau scientifique et technique. Mais certainement, les ressources que nous mettons avec tous les partenaires, il y a la Banque mondiale, la Banque africaine, nous-mêmes, le PNUD et d'autres agences, ne peuvent pas dépasser ces montants-là. Je pense qu'à ce jour, c'est un manque de réunir ces financements-là qui ont posé problème, mais au moins la cartographie est avancée et je pense que là, on est enfin dans le processus. Et je pense qu'on est sur la bonne voie.
Merci, madame, pour ces éclairages. Une deuxième question ici à Kinshasa. La gauche, s'il vous plaît. Un micro par là, s'il vous plaît. Oui, une dame, oui. Oui, merci.
Laurette Mandala, Africa Télévision. Je pose ma question à Madame Diène Keïta. Vous avez dit tantôt que 846 000 femmes meurent en essayant de donner la vie en République démocratique du Congo. Et nous savons que l'UNFPA est le partenaire du gouvernement de la RDC. Et nous aimerions savoir qu'est-ce que vous faites pour baisser le taux de mortalité des femmes avant ou après l'accouchement.
Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une question clé. Et je pense qu'il faut revenir même sur les chiffres. Quand je prenais fonction ici, le premier document qui existait montrait un taux de mortalité maternelle de 546 000 pour 100 000 naissances vivantes. Et l'EDS, qui est sorti, l'enquête démographique de santé qui est sortie, a ramené ça à 846 000. Ça prouve déjà que les chiffres que nous avions n'étaient pas bons. Parce que c'est pas que ça s'est aggravé, mais les chiffres n'étaient pas bons. Et également, les chiffres montrent aussi que 80% des accouchements ont lieu en milieu hospitalier. Donc la question, c'est la qualité des services fournis. C'est la qualité du personnel médical. Ce que nous faisons avec nos partenaires et nos bailleurs de fonds, c'est de renforcer justement cette qualité-là. Il y a la formation des sages-femmes et des accoucheurs qui se fait, et également des médecins auxquels nous contribuons énormément. Mais je pense que là, ça va finir par changer parce qu'il faut qu'on aille savoir où sont ces femmes-là et qu'on puisse accéder. L'accès aux femmes, c'est aussi ça qui fait que souvent la mortalité est très très élevée dans les endroits les plus reculés. Mais nous travaillons dessus avec tous nos partenaires. Je vous remercie pour cette question tellement importante.
Merci madame. Donc nous restons toujours à Kinshasa car apparemment nous avons des problèmes techniques avec Goma. Donc une autre question ici à la droite, ici à Kinshasa s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, une question.
Apparemment à droite, il y a plus de gens.
Oui, là, à gauche, alors. Oui.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Kabuika Kamunga, journaliste indépendante. Et j'ai une question, encore une fois, pour Mme Keita sur les urgences stratégiques. Et cette fois-ci, c'est plutôt focalisé sur les enfants, le recensement des enfants qui naissent pour les enregistrer. Est-ce qu'il y a déjà un système en place, par exemple? Est-ce que vous collaborez avec les cliniques qui reçoivent 80% des accouchements, comme vous venez de dire? Est-ce qu'il y a un système en place? Est-ce que vous avez créé un logiciel que les bureaux locaux peuvent utiliser pour enregistrer les personnes qui viennent de naître?
Merci beaucoup, madame. C'est une question tout aussi essentielle. Dès que vous dites enfant, le nouveau-né, comme je dis souvent, appartient à UNFPA, jusqu'à 40 jours. Après, ça appartient à UNICEF. C'est pour ça qu'on travaille dessus ensemble pour, l'enregistrement des enfants. Il y a un travail qui se fait. Mais vous le savez, le gouvernement a pris une décision stratégique, il y a quelques mois de cela, a créé un bureau qui est censé s'occuper justement de l'enregistrement des Congolais, commençant par ses plus jeunes, pour s'assurer d'une homogénéisation, une harmonisation de tout cela. Ceci se fait et toutes les agences concernées des Nations Unies sont impliquées. Pour le moment, ceux qui naissent en milieu hospitalier, oh, bien sûr, on les enregistre. Mais il y a des problèmes antérieurs qu'il faut combler. Et je pense que le défi véritable, c'est à se situer à ce niveau-là. Merci. Mais on peut continuer la discussion après, en dehors du micro. Je ne vais pas monopoliser trop de temps.
Merci, madame. Sans tarder, nous allons à Goma. Apparemment, la ligne a été rétablie. Je vois le chef de bureau, monsieur Daniel Ruiz, qui est en compagnie de Théophane. Goma, s'il vous plaît, trois questions. Oui, Goma.
De la zone Est de l'UNFPA, Goma, monsieur Eliwo Okoto. Donc, pour les questions, tout de suite, voilà, à ma gauche ici. Donnez le micro, s'il vous plaît.
Oui, c'est Victor Bugatti pour le grand du journal Hebdo de l'Est. Monsieur Félix Basse, êtes-vous informé d'un policier de la police nationale congolaise répondant au nom de Chamamba Kitondo Kennedy qui a arrêté au Rwanda depuis le 20 décembre 2014.
Je suis au regret de ne pouvoir confirmer cette information-là, mais nous chercherons à en savoir un peu plus. Deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Deuxième question. Allons, pas au même endroit. Devant, s'il vous plaît. À gauche, devant. Oui, vous.
Oui. Moi, c'est Saïd Yabassi. Je voulais poser la question à Denis de UNFPA. Vous avez dit que c'est trop. La population congolaise a dans sa moitié plus de femmes. Quelles seraient les stratégies maintenant là, si jamais la journée internationale de ce samedi 11 va nous servir comme un point de repère pour prendre un nouveau élan par rapport aux morts infantiles? Comment est-ce que vous pensez réduire quand les femmes, 1 sur 3 mères sur base de manque d'argent de payer les poches de sang, cause d'anémie? Est-ce que vous en êtes informé?
Oui. Merci beaucoup pour votre question qui est très importante. La journée de la population justement sert à sensibiliser. Ce n'est certainement pas ce jour-là que nous changeons les choses radicalement, mais c'est pour nous assurer. C'est pour ça que je vous ai interpellé, puisque j'ai le privilège d'être devant vous aujourd'hui, la presse, pour vous assurer que là où ça se passe, que chacun puisse aider. Vous savez, pour les 7 milliards, ce qui avait été demandé par le secrétaire général des Nations Unies, c'était que, qu'est-ce que c'est? Chaque personne compte. À côté de vous, dans votre maison, dans votre concession, que faites-vous pour votre voisin? Que faites-vous pour votre voisin? Que faites-vous pour la femme, pour l'enfant qui n'a pas les moyens à côté de vous? La femme qui accouche, vous qui êtes là, avez-vous les moyens d'aider à votre niveau? C'est ça véritablement, la question. Mais si on veut changer, il n'y a pas de secret, cher monsieur, c'est l'éducation. C'est ça qu'on rentre dans les urgences stratégiques, c'est l'éducation. L'éducation amène une meilleure compréhension du bien-être et de la santé de son environnement. Merci.
Merci, madame. Une troisième question à Goma avant de revenir à Kinshasa.
Troisième question à droite, là. Allez-y.
Moi, je m'appelle Cosmas Mungazi. Je pose la question à UNFPA Kinshasa. Tout en prenant le docteur Philemon en témoin ici, où en est-on avec les concours médias que vous aviez organisés depuis décembre dernier?
Oui, madame, où est-ce qu'on en est avec ce concours?
Ok, là je vais avoir besoin de l'aide de Philemon pour savoir où on en est avec les concours médias, mais je vous rassure que s'il y a eu concours en décembre, vous aurez les résultats incessamment et on est en train de programmer d'autres par ailleurs pour cette année encore. Vous aurez les résultats et les gagnants auront leur prix. Vous le promets.
Donc nous restons à Goma avec Philemon. Des éléments additionnels.
Philemon. Oui, Philemon, vous pouvez compléter.
Oui, à côté de vous. Concours avait eu lieu. Tous les Goma avaient participé ainsi que Bukavu. Et je pense que, comme le dit la représentante, incessamment, le concours sera publié avec tous les gagnants et je crois qu'il y aura aussi une bonne représentativité des Goma. Merci.
Merci Philemon. Retour ici à Kinshasa. Je rappelle que nous avons aussi les collègues de l'équipe pays qui sont juste derrière, qui pourraient répondre à vos éventuelles questions. Donc deux questions ici à Kinshasa, une à gauche. Passez le micro s'il vous plaît, oui. Monsieur là-bas.
Merci pour le micro, c'est Saint-Germain et Bingo pour le compte de Géopolice. Ma question qui aborde dans le même ordre d'idées que celle de mes prédécesseurs porte plutôt sur les plus de 10 000 Burundais, réfugiés burundais qui viennent d'être recensés biométriquement. Et la question est de savoir, dans ce genre d'opération, comment s'effectue la division des travaux entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour la population. Comment s'effectue la division du travail dans ce genre d'opération?
Merci pour votre question. Madame, vous avez des éléments de réponse?
Absolument. Merci infiniment pour cette question et qui est absolument pertinente. Vous savez, dans le monde humanitaire, le Fonds des Nations Unies pour la population intervient dans deux grands clusters. L'un, c'est la santé. Et le chef de ce cluster, c'est l'OMS. Et nous intervenons sur la santé sexuelle et reproductive là-dedans. Pour les questions de protection, ici en RDC, c'est le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est le chef du cluster, et pour lequel nous intervenons sous leur leadership pour les questions en général de violence basée sur le genre et de santé sexuelle et reproductive. Et il y a quelques semaines de cela, le représentant du HCR a fait une circulaire à toutes les agences du système des Nations Unies pour s'assurer que sous leur leadership, on avait une assistance coordonnée, chacun selon son mandat, envers les Burundais. Donc cela se passe très très bien. Il y a un travail absolument coordonné qui se fait au niveau des Nations Unies.
Merci madame. Une deuxième question ici sur ma droite. Oui.
Roger Marley Lukunga, journal Le Paris et hebdomadaire Écho de la majorité présidentielle.
S'il vous plaît. Oui, allez-y.
De la question des populations à celle de la santé, il n'y a qu'un pas que nous franchissons immédiatement. Alors, la semaine dernière, il devait être question d'un café de presse sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, notamment pour ce qui concerne la rougeole. Ce point de ce café de presse n'a pas eu lieu, mais nous aimerions savoir aujourd'hui, présentement là, comment se présente la situation de la rougeole dans notre pays. Est-ce qu'il y a des menaces? Les menaces sont toujours là ou on a réussi à endiguer la situation?
Oui, c'est à vous, madame.
Ok, ça c'est exactement la question à laquelle je ne pourrais pas répondre parce que ce n'est pas dans mon mandat. Ça, c'est plutôt, je pense, de l'autre côté auquel... Voilà, merci beaucoup de me sauver la vie là-dessus.
Oui, nous avons Yvon Ilumou qui se chargera de prendre en compte cette question. Oui, Yvon, bonjour.
Bonjour, mon colonel.
Je pense que votre présence est salutaire. Je comprends.
Alors, effectivement, concernant la rougeole en RDC, il faut dire que depuis le début de l'année, c'est une situation assez critique, notamment avec le Katanga qui a près de 15 000 cas. Et il y a aussi des cas qui ont été recensés dans d'autres provinces telles que le Maniema et même aussi en province orientale. Les efforts continuent d'être faits par les agences onusiennes, les ONG nationales et internationales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'augmenter tant les capacités, les investissements que nous mettons dans la lutte contre la rougeole, et notamment aussi en termes de capacités humaines, parce que c'est un peu la rougeole, un peu comme une urgence oubliée, un peu comme le parent pauvre de toutes les autres maladies dont on parle. On parle de paludisme, on parle de rougeole, on parle d'autres maladies. Mais on a souvent tendance à oublier la rougeole. Et il y a besoin, effectivement, tant au niveau des Nations Unies qu'aussi avec nos partenaires congolais, d'une plus grande collaboration afin que cette maladie ne devienne pas, en fait, endémique dans le pays. On a déjà assez de maladies qui sont déjà assez inquiétantes. On n'a pas envie d'avoir encore une énième maladie s'ajouter au travail que nous faisons déjà.
Merci Yvon. Nous repartons tout de suite à Goma pour prendre deux questions avant de revenir à Kinshasa. Goma, s'il vous plaît.
Parmi les deux questions, au moins une question venant d'une femme, s'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, une question à droite, une question à gauche, vous, et puis au fond, là-bas.
Oui, merci. C'est Patrick Félix Abeli. La fois passée, Yvon, vous avez publié un rapport faisant état de la population congolaise qui ne mange pas à leur faim. Est-ce qu'à présent, y a-t-il des mécanismes de suivi pour aider la population à pouvoir retrouver de quelle manière elle peut s'en sortir?
Oui,
y a-t-il des projets concrets déjà mis sur pied?
Oui, Ocha.
Je dois avouer que je n'ai pas entendu la question. Je suis en train de m'asseoir. S'il peut juste.
Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez repréciser votre pensée?
Oui, je dis ceci. Par rapport au rapport publié par Ocha la fois passée, ce rapport qui indiquait que bon nombre de la population congolaise ne mange pas jusqu'à sa faim. Et alors, l'OCHA, qui est le bureau des affaires humanitaires, est-ce qu'il y a-t-il déjà des projets concrets mis en œuvre pour aider que la population puisse se retrouver sur tous les coins reculés?
Oui, alors, je pense que sur le plan de la nutrition, de l'alimentation, vous avez trois agences principales, le PAM et la FAO, deux agences, pardon, le PAM et la FAO, qui sont bien implantés en RDC depuis de nombreuses années et qui mènent de nombreux projets, non seulement dans la province de l'Est, mais à travers tout le pays, pour effectivement permettre aux Congolais de mieux se nourrir et d'être en meilleure santé. Effectivement, l'Est du pays, pour des raisons que nous connaissons tous, notamment en raison de l'insécurité, fait que de nombreux ménages ne sont pas en mesure qui sont des ménages dont l'économie, la survie économique dépend de l'agriculture, ne sont pas en mesure souvent pendant de longues périodes de cultiver leurs champs, et ce qui fait qu'effectivement les revenus s'amenuisent et les familles sont dans une situation nutritionnelle assez précaire. Mais on peut en discuter hors micro, mais c'est un vaste projet qui comprend entre autres le programme de cantine scolaire dans les écoles qui vise les enfants. Ce programme de cantine scolaire souvent aussi a un volet qui permet aussi aux familles de être nourries, d'avoir accès à de la nourriture via le fait que leurs enfants soient inscrits à l'école. Donc il y a toute une gamme de projets, d'actions qui existent dans le pays. Effectivement, si le problème perdure, il y a peut-être aussi des défaillances beaucoup plus structurelles à laquelle il faut aussi s'adresser.
Merci Yvon. Peut-être des informations additionnelles, Florence?
Oui, donc comme l'a dit Yvon, c'est une réponse collective du système des Nations Unies avec la FAO, le PAM, l'UNICEF, notamment, qui sont aux premières loges pour la lutte contre la malnutrition. Et la malnutrition, le système des Nations Unies, cette année, a fait de la malnutrition une de ses priorités. Et actuellement, il y a le plan cadre de l'assistance au développement qui lie le système des Nations Unies au gouvernement de la RDC, qui ce plan est en train d'être révisé et avec vraiment un gros plan mis sur le problème de la malnutrition. Et en termes d'information et de dissémination de l'information et de sensibilisation, au sein des Nations Unies, nous avons décidé dans les mois qui viennent, d'ici à la fin de l'année, de mener des actions justement pour attirer l'attention sur le phénomène de la malnutrition qui reste encore très importante et parfois, comme d'autres problèmes, un petit peu oubliés ici en RDC.
Merci Florence. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Oui.
Monsieur Jérémy Kiambo, ma question s'adresse au porte-parole civil. Quel bilan dresse-t-il la MONUSCO depuis la réduction des hommes de troupes? Parce que malgré le nombre de patrouilles que vous nous publiez ici, la sécurité bat toujours record dans certaines villes du pays. Alors, je voudrais, parce que la plupart des personnes se plaignent des impacts négatifs de ces patrouilles. Nous n'avons pas eu une bonne réponse de la part du chef de bureau ici à Goma, Kinshasa, à vous.
Oui, avant de revenir à Kinshasa, je pense que M. Daniel Ruiz, qui est le chef de bureau et qui est présentement dans la salle, a quelques éléments d'information à apporter par rapport à cette interpellation. Monsieur Ruiz.
Oui, bon, je ne sais pas à quoi se réfère ce commentaire qu'il n'y a pas eu de réponse satisfaisante. En tout cas, effectivement, l'insécurité continue. Et il faut faire un plus grand effort entre tous, et le gouvernement et la population, avec l'appui de la MONUSCO, pour améliorer cette situation. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe tout seul. Il faut que tout le monde travaille ensemble dans ce sens-là. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et c'est ça ce qui empêche que la sécurité s'améliore. Mais je ne sais pas si vous référiez à quelques questions particulières ou une situation concrète.
Par rapport au nombre de patrouilles, la vraie sécurité, surtout en ville de Goma, nous voyons des chars de combat passer chaque nuit dans des grandes artères, mais on ne trouve pas personne n'a jamais dit que.
Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas devant lui. C'est la police nationale congolaise qui a cette autorité.
Oui, merci Monsieur Ruiz. Juste pour rajouter, comme vous l'avez dit tantôt, que d'abord la sécurité c'est l'affaire de tous, ce n'est pas simplement l'affaire de la MONUSCO. Et deuxièmement, là vous parlez de sécurité urbaine, et comme l'a rappelé Monsieur Ruiz, ceci relève de la compétence de la police nationale congolaise qui, bien sûr, est appuyée par la police des Nations Unies. Mais vous n'êtes pas sans ignorer non plus que dans le cadre du renforcement des activités liées à la sécurisation de la ville de Goma, que la MONUSCO a déployé aujourd'hui à Goma d'autres unités de police constituées, notamment vous avez la FPU sénégalaise qui est aujourd'hui à Goma pour renforcer la police nationale congolaise afin d'apporter un peu plus de sécurité aux populations de Goma. Toutefois, comprenez que les patrouilles font partie d'un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre pour justement prendre en compte la menace sécuritaire qui est aujourd'hui observée dans la ville de Goma. Donc nous revenons ici à Kinshasa pour une question avant de donner la dernière question à Goma. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette conférence de presse. Oui, ici à gauche. Un micro, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. C'est Symphonia Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation, Madame Gini. Vous avez évoqué le cas de la population vulnérable. Est-ce que vous avez quel type d'échantillon par catégorie, exemple, enfants, jeunes, adultes, y compris troisième âge, que vous avez donné priorité dans votre projet sous mandat en RDC? Je vous remercie.
Merci pour votre question. On ne donne pas toutes les catégories de population sont prioritaires. Il s'agit simplement pour les populations, c'est un peu comme les questions de sécurité. On fait des choix. Nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, la priorité essentiellement donnée à la population jeune et adolescente, comme on l'appelle, ceux qui sont en âge de passer de l'âge de l'enfance à l'âge d'adulte pour s'assurer qu'ils acquièrent les bons principes éducationnels et de santé pour qu'il y ait moins de mortalité maternelle, pour que tout l'argent qu'on a investi dans leur vaccin et dans tout le reste ne soit pas perdu par une grossesse précoce mal placée et qu'ils puissent rester sur les bancs le plus longtemps que possible pour pouvoir contribuer à l'économie de leur pays. Mais sinon, toutes les populations sont concernées.
Merci, madame. Une dernière question rapide à Goma. Une dernière question. On est à 30 secondes.
Je crois que vous avez demandé la parole bien avant.
Je réponds à Roberto Moutouamilimani. J'ai une question par rapport à... les opérations militaires qui se font dans les grands noms, comment on peut réconcilier des partis qui ne collaborent pas très bien, alors qu'on connaît que les FARDC, la MONUSCO, c'est la partie Est, il n'y a pas d'accord. Où en est-on avec la collaboration entre MONUSCO et les...
Commandant Gonsalves, rapidement.
Merci pour...
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je vous le rappelle encore à nouveau, la collaboration de FARDC et la MONUSCO se déroule très bien. Vous savez mieux que moi qu'il y a un dialogue au haut sommet qui évolue favorablement. Sur le terrain, je vous rassure qu'il n'y a aucun problème. Les FARDC et la MONUSCO collaborent harmonieusement.
Merci, Major Gonsalves. Un dernier mot pour la fin, madame, avant qu'on ne mette fin à cette conférence de presse.
Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Je voudrais vous inviter tous vendredi à 9h30 à l'hôtel Fleuve Congo pour célébrer les réalisations de la République démocratique du Congo en faveur de ses populations, et le samedi pour la marche des jeunes, et ensuite pour le Tam Tam PF qui aura lieu la semaine prochaine. Tam Tam PF, c'est de faire du bruit, du mouvement autour de la planification familiale.
Merci, madame. C'est sur cette invitation que nous mettons fin à cette conférence de presse. Merci aux auditeurs de Radio Okapi. Merci à vous qui avez fait le déplacement. À mercredi prochain. Merci.